du son, oui. Bonsoir à tous, je suis Sylvie Cailloluc. J'exerce en tant que psychothérapeute comportementaliste et cognitiviste dans la région Viviers-du-Lac.
Moi, je suis Martine Pichon-Damza, je suis psychologue et psychanalyste et je suis installée en cabinet à Chambéry. Je travaillais longtemps en psychiatrie et je dois dire que j'étais intéressée par la façon dont la cinéaste représente la salpêtrière. Parle avec modernité de quelque chose d'ancien, c'était assez intéressant, mais bon, il y aura d'autres choses.
Voilà, donc quelque chose d'assez intéressant à la fois sur la maladie et puis l'histoire de la médecine aussi. Je vous laisse la parole. Alors, qui veut poser la première question ? Je crois que... Bon, il faut se réveiller, là.
Non, parce qu'on ne va pas faire le spectacle, là.
Je peux tenter de simuler une crise d'hystérie, mais...
Bonsoir, je me lance puisque personne ne lève la main. Je voulais simplement savoir si c'était vraiment ce qu'on a vu, la maladie de Charcot. C'est ça, c'est l'hystérie, c'est...
Il me semble que non, mais...
Non,
si c'est la maladie de Charcot, c'est
non, parce que, si je peux, mais en résumé, sûrement trop schématiquement, Charcot a été neurologue. Il est un des précurseurs de la neurologie. Et il a beaucoup travaillé, alors plus sur... on le voit d'ailleurs sur les planches anatomiques, il cherche ce qui, dans la lésion... Enfin, il a pu localiser des zones cervicales, il fait partie de ceux qui ont pu... Et à partir d'une lésion sur une zone, on a une atteinte motrice. Et c'est plus de ce registre-là quand on parle de maladie de Charcot. Là, c'est l'hystérie telle qu'elle était au XIXe siècle, dans toute sa splendeur, mais avec tout aussi le problème des présentations de malades. Et c'est assez bien rendu dans le film de ce qui se joue entre celui qui présente et la patiente qui est présentée, et qui c'est tout autre chose après qu'une réalité scientifique, enfin quelque chose comme ça. Ce qu'on a vu là, ça s'appelle l'hystérie de conversion, c'est-à-dire c'est des troubles psychiques qui se traduisent de façon corporelle par des symptômes, par ce qu'on appelle des stigmates. Elle a un moment des plaies dans le dos, et c'est le genre de manifestation qu'on voit moins maintenant, notre culture s'y porte moins. Les femmes sont moins corsetées et ont moins besoin de se manifester comme ça, mais il y a d'autres symptômes.
Je voulais savoir, quand la patiente s'est sentie guérie, est-ce qu'une personne hystérique peut vraiment avoir la conscience qu'elle est guérie ? C'est un peu ambigu, là, j'ai pas très bien compris.
C'est-à-dire, l'hystérie a une labilité des symptômes. Vous avez vu, elle a un œil fermé, après, suite à certains événements. Souvent, c'est lié à des... Et là, dans le film, il semble aller dans le fil de la... Il y aurait un traumatisme qui induit la chose. Donc, effectivement, ce que la patiente ne se rend pas compte, c'est la crise. Elle ne s'en rappelle pas, en principe. Là, elle est très, je disais tout à l'heure, en aparté, elle est très maligne parce qu'elle a bien compris. Donc, elle rejoue quelque chose. Mais en principe, le caractère même de l'hystérie, c'est qu'elle ne sait pas ce qui s'est passé pendant sa crise. Elle ne s'en rappelle pas. Par contre, si son corps, sa partie hémiplégique qui était paralysée, refonctionne, elle s'en aperçoit. Ce dont elle s'aperçoit, c'est qu'elle n'a plus les symptômes. Mais ce qu'on voit aussi, je ne sais pas si vous y avez été sensible, c'est que Charcot est beaucoup plus intéressé au début, en tout cas, par la recherche scientifique, par donner un diagnostic que par traiter la patiente. Il ne répond pas à ses questions, ne se préoccupe pas de lui expliquer ce qu'elle a. Quand elle parle, c'est ce qu'elle lui dit d'ailleurs, il ne l'écoute pas. Et ce qui est intéressant, pour moi, mais pas pour tout le monde, c'est que c'est le moment où on va, au-delà des troubles somatiques et des explications neurologiques et organiques, on va se tourner vers d'autres hypothèses qui sont des hypothèses d'ordre psychologique où la relation avec le thérapeute, le médecin, a aussi toute son importance, l'écoute, la parole. Je trouve que Le film en rend compte, alors d'une manière effectivement qui tourne autour de la relation d'amour supposée entre Charcot et sa patiente, mais en tout cas qui montre que c'est parce que c'est l'attention portée à cette jeune femme qui l'aide à devenir. Alors dans le synopsis, c'était marqué de l'objet d'étude à objet de désir. Je ne sais pas si vous serez d'accord, mais moi je trouve qu'elle devient sujet de sa propre histoire. Enfin, je ne sais pas où elle va à la fin, mais elle y va.
Je suis complètement d'accord avec vous hein, là-dessus. Effectivement, sur ce type de personnalité, en plus, c'est des personnes qui vont théâtraliser. Donc, plus on va rentrer dans la théâtralisation, et plus, en fait, le trouble va encore plus prendre de l'importance. C'est ce qui est bien traduit, je trouve, aussi dans le film. Et comme, effectivement, ensuite, on voit bien la relation avec le thérapeute. Et nous, qui sommes thérapeutes toutes les deux, on sait combien la relation avec le patient va être fondamentale, non seulement dans ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique, mais aussi le soin qu'on va apporter. Il y a cette distance qui a gardé. J'ai trouvé que c'était très finement mis en scène, justement, sur comment garder la distance, justement, avec une personnalité telle que cette Augustine, mais comme on peut avoir aussi dans nos cabinets.
Merci. D'autres questions ? Ah oui, on a une question devant. On a le droit de s'exprimer, mais dans le micro.
Ouais, non, mais en fait, le débat est enregistré et diffusé sur Internet, donc de manière à pouvoir comprendre les réponses, il faut aussi entendre les questions.
Oui, je me demandais, donc à cette époque-là, effectivement, il y a eu quand même toute une recherche sur cette maladie, l'hystérie. Et donc, dans le monde qu'on peut voir actuellement, on ne voit plus ce type de pathologie qui prend cette forme-là. Pensez-vous que cette pathologie est disparue ou pensez-vous qu'on puisse la retrouver sous d'autres formes de... Alors, moi, je n'ai pas d'avis bien précis là-dessus, mais de temps en temps, j'entends des confrères me dire la fibromyalgie, est-ce que c'est de la fibromyalgie, est-ce que c'est de... Voilà, moi, qu'est-ce que vous en pensez?
D'abord, la fibre...
Ou d'autres maladies, mais donc, oui, il y aurait d'autres maladies qui seraient, en somme, des équivalents de ce qu'on observait autrefois, de manière plus démonstrative. C'est une question. Hein.
La grande hystérie, comme il l'a démontré Charcot et comme elle a été montrée dans le film, on ne la retrouve pas actuellement parce que c'était vraiment sociétal, comme vous l'expliquiez tout à l'heure. Par contre, moi, je me réfère aux critères diagnostiques internationaux et on peut retrouver ce qu'on appelle les troubles de conversion. Où on va avoir effectivement des troubles de la motricité volontaire ainsi que des troubles de la sensibilité, la sensorialité. Donc ça, on va le retrouver. Et qui ne sont pas une affection médicale. Parce qu'on peut faire le diagnostic, on en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a un diagnostic différentiel qui va être fait où on va voir si ça relève d'une autre maladie neurologique. Mais on peut retrouver des troubles de conversion qui ne sont pas liés à ces affections-là, mais qui vont pouvoir avoir des manifestations comme une crise commissiale, on peut le retrouver. Hein. Avec, par exemple, une diplopie, c'est-à-dire on voit en double des paralysies. Ça, on peut l'observer. Ça s'appelle le trouble de conversion. Par rapport à la fibromyalgie, je ne vais pas m'avancer sur ce diagnostic-là parce que c'est très compliqué. Nous, en tous les cas, on ne le répartirait pas.
Et cette fibromyalgie. Fibromyalgie, c'est quoi exactement ?
C'est avoir une douleur, quelquefois suite à une intervention chirurgicale, mais pas forcément, mais qui perdure alors qu'il n'y a pas de signe organique. C'est peut-être pour ça que ça vous y fait penser. Juste pour ajouter quelque chose, la symptomatologie l'hystérique et l'hystérie a comme ça s'extériorise beaucoup, a été beaucoup étudiée et je pense traitée. Et je ne suis pas sûre que dans d'autres j'allais dire, continent, on ne voit pas des... Parce que la façon dont on traite les choses et dont on traite les symptômes a aussi un effet sur la symptomatologie. Là, vous avez vu la salpêtrière à l'époque. Je sais pas si, bon, c'est bien arrangé, hein, parce que c'était pas comme ça, la salpêtrière, au 19e siècle, je pense. Parce que là, c'est propre. Elles étaient 4000 femmes réunies ou 4500 femmes réunies dans ce qu'on appelait le pavillon des indigentes, mélangées épileptiques, hystériques. Ce que je trouve intéressant, Alice Vinocourt fait défiler, je ne sais pas si vous avez fait attention, des femmes qui parlent. Apparemment, c'est des patientes qui sortaient juste d'hospitalisation, mais des patientes actuelles. Et qui, alors, je ne sais pas si elles sont hystériques, comme elles disent, il me semble que ça relève d'autres pathologies, mais c'est ce mélange qu'il y avait de personnes qui entraînent aussi ce que. Tout à l'heure, on posait la question, comment elle sait qu'il faut faire une crise, enfin, qu'est-ce qu'on lui demande? Mais bon, elle a vu, hein. Elle a vu. Elle voit aussi ce qu'on lui demande, enfin, ce qu'on attend d'elle. Et il y avait cette marmite. Avec aussi ce qui avait présenté certains avantages, je ne sais pas si vous avez vu, mais l'hôpital psychiatrique qui vivait en autarcie. Ils avaient leur ferme, ils avaient leur cuisine, ça avait des avantages, ça avait des inconvénients. Apparemment, ce n'était pas si facile d'en sortir. Hein, et ce que je trouve aussi assez frappant, alors je sais pas, c'est cette image de la faim, hein, où à la fois on ne voit qu'elle et on ne la voit pas, dans ce mélange d'hommes qui sont complètement clonés, tous... en costume trois pièces, enfin, autant les femmes sont dénudées, autant eux sont tous en noir. Et du coup, elle arrive à passer de toute façon, de façon tout à fait indicible. Hein. Bon, après, ça pose aussi une question. Je ne sais pas si, en voyant, je pensais la phrase du poète, vous savez, la femme est l'avenir de l'homme. Là, je ne sais pas si c'est l'homme qui est l'avenir pour Augustine, mais bon, se transforme en homme pour pouvoir sortir, en tout cas.
Moi, ce serait plus une question par rapport à l'hypnose, parce que j'ignorais que l'hypnose provoquait des troubles. Enfin, j'ai pas bien compris comment ça se passait, mais aujourd'hui, on reparle de l'hypnose plutôt pour guérir. Alors, c'est un peu ambigu par rapport à cette technique.
Il me semble que c'est lié un petit peu au principe de l'effet placebo, c'est-à-dire qu'on peut à la fois susciter des troubles ou au contraire les atténuer par le biais de l'hypnose.
Bon, ce qui vous a peut-être frappé, là, c'est parce que c'est pour faire une démonstration. Hein, c'est si je ne suis pas spécialiste de l'hypnose, mais recréer un trouble pour pouvoir justement le faire cesser, le faire de façon expérimentale pour pouvoir le traiter, pas le faire de façon expérimentale pour le montrer. Dans l'hypnose en traitement. Mais ce que ça montre, c'est que, et ce que Charcot, même s'il a un peu de mal à lâcher ses planches anatomiques, c'est que ça n'a. Et s'il provoque la crise, c'est qu'il n'y a pas de. Ça veut dire qu'il n'y a pas de lésion organique.
Hein, c'est la cause est psychologique.
Voilà, on peut par suggestion. Ce qui est impressionnant, c'est que vous avez vu comme elle se met en catatonie entre deux chaises. Et c'est vraiment impressionnant, oui. Mais les traitements de l'hypnose, les traitements de l'hystérie ont beaucoup évolué. Il y a une scène, c'est un compresseur ovarien, parce qu'une des thérapeutiques, encore à l'époque de Charcot, il y avait bien l'idée quand même que ça venait de l'ovaire. Donc on faisait une ablation des ovaires pour traiter l'hystérie. Hein, donc là, la compression, c'était déjà moins mal qu'on a cheminé. Mais il y avait vraiment des thérapeutiques tout à fait radicales, hein, avant de comprendre que ça se jouait à un autre niveau et qu'il fallait prendre les choses autrement. Et que peut-être les hystériques, elles avaient quelque chose à dire.
Oui, parce que on faisait des expériences à l'époque sur les malades, y compris les bains d'eau glacée, les expériences avec l'électricité, enfin ce genre de choses, qui ont parfois, un peu par hasard, donné de bons résultats, puisque l'électricité est toujours utilisée dans certains cas aujourd'hui, mais de manière moins barbare.
Puis on connaît l'hypnose depuis très très longtemps. Hein. En Mésopotamie, par exemple, on sait qu'ils utilisaient l'hypnose et qu'elle a été utilisée à titre d'anesthésie.
Au
pendant très 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 longtemps, jusqu'à ce que le, alors je vais dire aux alentours de 1800, le chloroforme a été découvert, et à partir de ce moment-là, on n'a plus utilisé l'hypnose, et on revient à l'hypnose notamment pour certaines interventions, notamment auprès des enfants. Et puis je sais qu'il y a des dentistes aussi qui font certaines interventions. Donc l'hypnose est vraiment connue depuis très longtemps.
Un simple détail, que sont les stigmates ?
Les stigmates, c'est comme dans ce qu'on a pu dire, c'est, j'allais dire dans la religion catholique, c'est simplement des blessures qui apparaissent sans qu'il y ait choc ou raison extérieure qui ferait qu'on ait... Elle se retrouve, là on le voit dans le film, elle a une blessure dans le dos qui est venue comme ça.
Non, je demande si c'est le Saint-Esprit, parce que vous ne donnez pas de réponse.
Mais parce que je n'ai pas de réponse, comme je ne sais pas pourquoi elle est hémiplégique d'un côté. Et puis après, elle a un œil. Comment ça se fait que ça vient ? C'est vrai que ce n'est pas la même chose parce que c'est une atteinte, vous avez raison, de...
Mais c'est sanguinolent, c'est profond, c'est tuméfié, enfin...
Ça n'avait pas l'air trop sanguinolent, mais bon. Je ne sais pas.
Merci.
C'est-à-dire, enfin, des phénomènes physiologiques qui interviennent à la suite d'une émotion, on peut rougir, par exemple, ou de ce genre de choses. Alors là, évidemment, ça prend d'autres proportions, oui. Non, mais je veux dire, on peut imaginer que quelque chose qui est d'origine psychologique puisse avoir un résultat au niveau du corps.
Je voudrais savoir qui c'est qui peut s'occuper de ce genre de malade, si, parce que c'est vraiment pas anodin. Quelle est la formation de ces, si c'est des psychiatres, parce qu'il faut quand même, il y a peut-être un côté médicamenteux à donner. Donc, est-ce qu'une psychothérapie ou autre, ça ne doit pas suffire, je suppose. Donc, il faut un psychiatre, mais un bon psychiatre. Et tout le monde ne peut peut-être... pas être à même de s'occuper de ce genre de personnes, parce que c'est pas anodin. Et quelle est leur formation, quoi, à ces médecins ?
Vous avez raison, oui, c'est pas anodin, mais ce qu'on vous disait tout à l'heure, je pense qu'on est d'accord toutes les deux, c'est que cette grande hystérie, comme on la voit décrite dans le film d'Alice Winocourt, on ne la retrouve pas maintenant. Par contre, on peut retrouver, une personne qui va avoir des troubles de conversion ou une personnalité histrionique, c'est-à-dire qui va être vraiment dans la théâtralisation, qui a besoin d'être au centre de l'intérêt de tout le monde, autrement elle est mal à l'aise dans les relations à l'autre. Alors ça, oui, on va le retrouver. Et effectivement, il faut une formation. Donc les gens peuvent avoir soit une formation de psychiatre et ils ont un parcours via la médecine pour passer l'internat et être psychiatre. Et puis, il y a les psychologues qui sont tout à fait à même, les psychanalystes qui ont une formation, les psychothérapeutes qui sont soit psychologues, soit infirmiers, soit médecins, et qui vont pouvoir prendre en charge ce type de personnalité. Mais ce qui est intéressant souvent, c'est un partenariat. C'est-à-dire qu'il y ait aussi bien une prise en charge avec un psychiatre, qu'il peut y avoir une prise en charge avec un autre psychothérapeute, qu'il y ait une prise en charge sur la psychomotricité. Enfin, voilà, je vous le dis, c'est un panel assez large. Souvent intéressant d'ailleurs de travailler comme ça en partenariat.
Une complémentarité entre les différentes approches et méthodes peut être intéressante.
Oui, plus un travail qui peut être d'équipe. Mais on parlait tout à l'heure de diagnostic différentiel. C'est important, hein, parce que c'est souvent compliqué. Hein, par exemple, un trouble de conversion, c'est assez compliqué. Donc, il faut que nous, quand ils arrivent dans nos cabinets, souvent, ils ont déjà vu leur médecin généraliste. Puis après, ils voient qu'il est envoyé vers un neurologue. Puis le neurologue va adresser vers un autre confrère. Puis quand ils arrivent vers nous, ils ont déjà fait beaucoup, beaucoup de spécialistes. Et on va avoir besoin, justement, de ces diagnostics-là. On ne va pas pouvoir dire tout de suite si c'est sur quels critères.
Il me semble que quelqu'un avait à un moment parlé de la question des médicaments aussi. Et donc dans les soins qui sont apportés aux gens qui souffrent de ce type de troubles, même s'ils ne sont pas tout à fait identiques aujourd'hui que ce qu'on a pu voir ici, est-ce qu'on utilise des médicaments qui peuvent soulager que ce soit des formes de conversion, comme vous dites, de symptômes de ce type ou d'autres formes de troubles.
Pardon, là, ça peut être possible, mais là, ça sera vraiment cas par cas et on ne peut pas donner vraiment de type de prise en charge. Par contre, à ce moment-là, ça sera le psychiatre, oui, qui pourra effectivement donner le traitement tout à fait adéquat en fonction de la pathologie.
Oui, je ne sais pas si c'est possible pour vous de répondre à cette question.
Pardon ?
Oui, je suis là, pardon. Mais je me posais la question de savoir à partir de quand il y a eu une réflexion autour de l'éthique du malade. Parce que là, en fait, le malade est un objet, en tout cas pendant un long moment du film. Et quand est-ce qu'on a pris en compte cette dimension humaine du respect de la personne ? Et est-ce qu'il y a un code déontologique ? Comment ça se passe quand on discute sur des gens ? Enfin, je n'ai pas du tout d'idée de l'histoire de ça, mais peut-être que ce n'est pas votre compétence et je comprendrai très bien.
Je pense, je n'ai pas non plus de date, je ne sais pas si quelqu'un dans la salle pourrait, mais depuis quand même assez longtemps, par exemple dans les hôpitaux, dans les institutions qui accueillent des patients, que ce soit l'hôpital ou l'hôpital... le centre hospitalier spécialisé, pas dire hôpital psychiatrique, il y a des chartes, il y a toute une déontologie. Alors sur le plan des textes de loi, oui, mais je ne saurais pas dater. Parce qu'il n'existait pas à l'époque, effectivement. Mais à l'époque, on était plus dans l'accueil, dans recueillir les gens, dans leur donner à manger, dans les soigner. Que vraiment d'en réfléchir, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, à réfléchir aussi à la déontologie en tant que soignant par rapport aux patients, jusqu'où aller, quel investissement on met et comment on est attentif à ce que comment ça, l'autre le comprend ou peut l'entendre. Hein. Bon, ça aussi, c'est cadré, mais ça ne l'était pas du temps de Charcot. Ils avaient beaucoup de choses à mettre en place.
Oui, bonsoir. Je voudrais juste une précision. Qu'est-ce que vous appelez exactement des troubles de conversion ? C'est tout ce que vous avez expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire...
Là, ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire ce que l'on entend par une ou plusieurs troubles de la motricité volontaire ou alors des troubles aussi au niveau sensoriel, sensitif, voilà, et qui ne relèvent pas d'une affection médicale autre ou d'un trouble neurologique.
Donc c'est le corps qui réagit, quoi.
Oui, mais surtout, ça va être en fonction de ce qu'on a vraiment repéré, c'est surtout en fonction de stress, d'un facteur de stress ou souvent lié au conflit. Donc, on va retrouver ça. Hein. Ça va s'exprimer de cette manière-là. Je ne sais pas si vous voulez compléter.
Oui, non, juste dire conversion, parce que ça veut dire que c'est un trouble psychique, enfin, qui se passe sur le plan psychique, émotionnel ou affectif, qui se traduit par un symptôme corporel. C'est ça, la conversion, c'est-à-dire d'accord. que c'est converti dans un autre registre.
D'accord. Et dans le cadre du film, là, ces symptômes, c'était quoi ? Un choc dans l'enfance ou des désirs refoulés ou...
Je ne sais pas si vous avez été attentive, mais à la première scène, ça m'a beaucoup frappée. L'hypothèse, semble-t-il, la cinéaste, ce qu'elle redit, hein, c'est que c'était des femmes qui étaient servantes, qui avaient sûrement été violées ou qui avaient vécu des traumatismes sexuels. Et dans la première crise qu'on voit dans le film, il me semble qu'elle dit arrête ou qu'elle se débat. Dans les autres crises, elle mime beaucoup plus quelque chose de l'ordre du sexuel. Hein, mais dans la première scène, elle est plus dans une défense, me semble-t-il. Et voilà, ça peut être une des causes souvent émises, notamment à l'époque, c'était ça. C'était de l'ordre de traumatisme sexuel ou de choses comme ça qui faisaient que c'était réprimé ou mis de côté et que ça revenait. ça revenait et aussi pour se faire entendre, on pourrait dire. Parce que bon, l'hystérisme, bien sûr, c'est une pathologie, mais ça peut être utile. En tout cas, c'est à minima, on est sûrement plusieurs à avoir un côté un peu hystérique, enfin, non, parce que ça dépend aussi ce qu'on y met derrière, hein, si c'est la pathologie, si c'est un trait de personnalité, ou dans le langage courant, c'est piquer une crise, et quelquefois, piquer une crise, ça peut être salutaire, ça peut faire sortir des choses et permettre de passer à autre chose. C'est aussi... un psychanalyste de Chambéry, Henri Vermorel, disait souvent l'hystérie, c'est la vie. C'est vrai que ça va du côté de la vie et je trouve qu'on le voit assez bien dans le film. Charcot serait plutôt du côté obsessionnel, si je peux faire un diagnostic. Il est un peu réprimé. Hein, bon, c'est pas forcément. Bon,
c'est taciturne.
Il fait de grandes choses aussi. Hein, c'est peu.
Oui, quelle lecture faites-vous du passage où Augustine, dans sa robe rouge, évolue dans le cabinet, regarde les estampes, prend la pomme et dit il n'y a pas beaucoup d'amour là-dedans. Comment vous le vivez? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet-là? En tant que professionnel, bien sûr.
Bah, je crois qu'elle pointe effectivement un peu la même chose que ce qu'elle lui dit quand elle lui dit qu'il ne l'écoute pas, quand elle lui dit qu'elle le déteste, c'est-à-dire qu'elle met de l'affect. Il lui en met pas au début. Enfin, il est très froid, et c'est ça qu'elle souligne. Et quand je disais la vie, c'est parce qu'elle va chercher ça. Enfin, je l'entendrais comme ça. Hein, elle est très fine pour pointer ce qui manque. Hein, chez cet homme aussi, d'ailleurs. Hein,
elle a perçu son trouble, en fait. Hein,
elle a perçu son trouble.
Elle a perçu son trouble, et le symbole avec la pomme, je trouvais qu'il était quand même... formidablement bien trouvé à ce moment-là.
Elle a senti son trouble et puis je trouve qu'elle pointe aussi ce qu'on voit de la vie de Charcot qui n'est pas non plus beaucoup remplie d'amour et de... Mais...
Tout au long de cette soirée, on a évoqué l'hystérie sous ses aspects féminins, que ce soit dans le film ou dans le débat de ce soir. Et y a-t-il une manifestation masculine de l'hystérie? Éventuellement, quelle forme cela peut-il prendre?
Oh oui, mais c'est vrai que l'hystérie, comme peut-être vous le savez, ça vient de... Je vais faire grec, hystérie, merci. Donc, c'était souvent considéré comme une maladie de la femme, ou pour ne pas dire que c'était lié à l'état de femme. Enfin, ils le disent un peu dans le film, hein. Oui, c'est lié à l'utérus. Enfin, ça veut dire utérus, le mot en grec qui est d'où est tiré hystérie. Et justement, Charcot va montrer qu'il y a des hommes qui ont des symptomatologies hystériques et que c'est plus lié à un problème psychologique qu'à l'ovaire en tant que tel ou au sexe féminin. Mais les idées, des fois, ont la vie dure. Je ne suis pas sûre qu'on en sort de ça. Alors, les symptômes chez l'homme, je pense que ça peut être un peu les mêmes choses, mais c'est aussi souvent des troubles d'impuissance ou de...
On trouve des troubles sexuels, voilà, comme vous dites.
Oui, il y a une chose peut-être à rajouter, c'est que la société du 19e siècle, la nôtre peut-être encore un petit peu, mais surtout celle-là, était sans doute beaucoup plus répressive vis-à-vis des femmes que vis-à-vis des hommes. Ce qui peut expliquer que ça se traduise par des symptômes. Parce que comme on le remarquait tout à l'heure, la maladie psychologique est aussi l'expression de quelque chose qui est social. Ce qui peut permettre de comprendre que l'hystérie, telle qu'elle se manifestait à l'époque, n'existe plus en tant que telle aujourd'hui, mais qu'il y a d'autres formes d'expression de la souffrance.
Historiquement, jusqu'où Charcot est-il allé dans la avant Freud, de la compréhension de ses troubles?
Il est allé là où on l'a vu, là. Voilà, c'est-à-dire qu'il a quand même perçu qu'il y avait un trouble, enfin, que c'était lié à quelque chose de psychologique, que c'était des troubles psychiques, qu'il n'y avait pas de localisation. Mais il le dit dans le film, la cinéaste lui fait dire, en gardant quand même l'idée que ça s'inscrit dans une neurophysiologie. Il n'a pas lâché son... Mais il a ouvert la porte, et c'est vrai que Freud, je crois que c'est... dans 1880 ou 85 et est allé voir Charcot. Et lui a essayé de suivre et de travailler sur qu'est-ce qu'il faisait, notamment que ces hystériques avaient des symptômes dont qu'elles semblaient méconnaître et dont elles ne se rendaient pas compte, elles ne les liaient pas à une cause. Et c'est là, après, tous les travaux sur l'inconscient, sur le refoulement, sur... Mais Charcot s'est arrêté à peu près là. C'est vers la fin de sa carrière qu'il s'est vraiment intéressé à l'hystérie. Et je trouve que la cinéaste montre bien le malaise aussi dans lequel ça le met, parce que c'est plus tout... Enfin, il sort un peu de son domaine. C'était vraiment un grand neurologue qui a beaucoup avancé et qui a fait beaucoup. Alors, on voit aussi, hein, c'est pas que maintenant, il cherche des financements. Et il en est réduit à des choses très compliquées. Mais vous disiez les hommes moins soumis à contraintes. En voyant le film, là, je me disais, ils étaient quand même bien contraints, ces messieurs, de devoir être tous pareils. Mais bon.
Que le droit de cuissage pouvait intervenir dans les causes éventuellement, cause de l'hystérie.
Je suis pas sûr que le droit de cuissage ait existé un jour, à vrai dire, mais en tant que droit, non.
Dans le film, votre réflexion est assez. Dans le film, le regard d'un des convives sur la servante est assez, je dirais pas ambiguë, parce qu'il est assez clair, je trouve, mais il faudrait penser à ce que vous dites, effectivement. Oui, sous des dehors très corsetés, il se passait beaucoup de choses qu'on peut penser qui se traduisaient après par des symptômes. Oui. Mais Augustine, qui ne s'appelait pas Augustine d'ailleurs, elle s'appelait Blanche, la patiente de Charcot. Et ce qui est assez amusant, c'est que la cinéaste a donné le nom d'Augustine à la femme de Charcot, hein, dans le film. La femme de Charcot s'appelait Augustine, je m'en mêle. La femme de Charcot s'appelait Augustine et c'est le nom qu'elle a donné à Blanche. Elle s'appelait Blanche et elle apparaît souvent dans des tableaux qui sont assez célèbres. Je ne sais pas si vous les avez vus. On voit un monsieur qui est bien moins beau que Vincent Lindon, enfin moins... qui est une patiente un peu dénudée. Enfin, on voit ça beaucoup. C'est une leçon à la salpêtrière. Tous les manuels de philo la comportent, cette photo.
Une autre question, n'hésitez pas. Sinon, il est peut-être l'heure, cela dit. Donc je crois qu'on peut en rester là, hein, s'il n'y a plus d'autres questions. Je vous remercie.
Merci à vous.
Au niveau des annonces, donc on doit en principe faire un café sur le sujet du gaz de schiste, mais qui n'est pas sans poser problème. Parce que le café, j'entends. Il y a de l'eau dans le gaz. Donc les intervenants hésitent ou parfois ne peuvent pas venir parce que leur institution leur interdit de prendre la parole. Voilà, donc on essaye de faire avancer le Schmilblick, mais on vous tiendra au courant via Internet notamment pour voir si ce café se tient effectivement. Voilà. Merci beaucoup, bonne soirée.